Qu'est-ce que vous entendez? À quoi vous venez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, peut-être une dénomination chrétienne. Et effectivement, le Saint-Esprit, la naissance de l'Église. Mais c'est vrai et c'est important. Mais en fait, la Pentecôte est en réalité beaucoup plus ancienne. Elle était célébrée chaque année par le peuple juif depuis qu'ils avaient reçu la loi au mont Sinaï. Et la compréhension de cette fête comporte des éléments qui nous révèlent la profondeur du plan de salut de Dieu pour chacun de nous. C'est une fête qui est ancienne. C'est une fête qui n'est pas simplement un jour sanctifié par rapport à une saison particulière. Oui, il y a un lien avec le cycle agricole, mais c'est vraiment une perspective dans l'avenir, un jour férié, prophétique, qui annonçait ce que le Seigneur allait faire dans les temps de la fin. Et ce jour de fête devait être familier pour Jésus et ses disciples. Ils l'ont certainement célébré. Alors c'est vrai que la célébration de la Pentecôte s'est estompée dans la communauté juive parce que c'était quand même une fête où on offrait une gerbe de blé au temple, je vais y revenir, etc. Et comme vous le savez, à part quelques pierres de fondation, il n'y a plus de temple à Jérusalem, plus de sacrifices. Mais il y a une chose qui est toujours célébrée, plutôt parmi les juifs religieux, c'est le don de la Torah au mont Sinaï. La Torah, la loi, les commandements de l'Éternel, selon la tradition, ont été donnés le jour de la Pentecôte. Alors, quelques éléments encore sur la Pentecôte. La Pentecôte tombe sur le mois du calendrier hébraïque de Sivan, qui est le troisième mois dans le calendrier. Vous savez qu'il commence avec le mois de la Pâque, de Pessah, et ça a lieu entre mai et juin. Et cette année, c'est intéressant, la Pentecôte a commencé hier soir. Les fêtes commencent toujours au coucher du soleil, et donc nous sommes aujourd'hui dans le premier jour de Pentecôte. Cette fête est mentionnée dans Lévitique 23, que je vais lire un peu plus tard. Mais il y a aussi les sept fêtes annuelles. Elles sont appelées d'un terme qui est intéressant en hébreu, qui est le terme « moed ». « Moed », ça signifie un temps convenu, un temps fixé. Et ces jours fixés étaient des temps désignés dans l'année où notre peuple était appelé à s'arrêter et à se fixer sur l'Éternel. Et Dieu avait vraiment prévu ces fêtes parce qu'il connaît bien notre cœur et il sait que la vie avait plein de distractions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, ces distractions pouvaient nous détourner de lui. Ces temps convenus étaient des rappels à se fixer sur Dieu et à venir dans sa présence. Et c'est ce qu'il souhaitait. Alors peut-être que vous aurez l'impression, mais le Dieu qui a créé cet univers, récemment on essayait de calculer avec mes enfants la distance d'une année-lumière, sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde, qu'il y a, je ne sais plus par cœur, tant de secondes dans une année, combien la lumière parcourt-elle de kilomètres en une année? Le chiffre était assez conséquent. Ce grand Dieu, peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à moi? Il a un univers à gérer. Peut-être que finalement, il est trop grand, il a d'autres choses à faire. À travers ce chapitre du Lévitique et à travers toute la parole de Dieu, nous voyons tout à fait le contraire. Dieu n'a pas créé le monde et s'est retiré dans les régions lointaines. Il s'intéresse à nous. Et même peut-être si vous dites, mais s'il me connaissait réellement, il ne serait pas très content et ne voudrait pas être en lien avec moi. Je peux vous le garantir, Dieu vous connaît parfaitement, mieux que vous-même, et il a très envie de vous rencontrer, chacun de nous. Ces temps convenus sont des opportunités de nous arrêter et aller à la rencontre de notre Seigneur, le célébrer et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Lisons Lévitique 23. Alors, pas tout le chapitre, je vais simplement lire entre les versets 15 à 21. Depuis ce lendemain du Shabbat, donc c'est le Shabbat après Pessah, après la Pâque, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleurs de farine et cuits avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Donc, de nos jours, notre peuple juif connaît cette fête sous le nom de Shavuot. C'est le mot en hébreu qui signifie 7 et signifie aussi semaine. Parce que comme nous l'avons lu, il faut compter 7 Shabbat, 7 semaines entre le Shabbat après Pessah et celui de Pentecôte. À ce Shabbat était offert devant Dieu un homère. Et donc, le terme Pentecôte vient aussi du grec. Est-ce que vous savez comment on dit 50 en grec? Penta, exact. D'où 50 jours, Pentecôte en français. Et donc, c'est un décompte entre la Pâque et la Pentecôte. Mais j'aimerais revenir sur ce comptage de l'homère, qui est important. Un homère, donc, c'est deux choses. C'est une unité de mesure liquide, et aussi, ce mot signifie gerbe. Et c'est précisément cette gerbe qui était offerte au début et après, à la fin du comptage. Une gerbe d'orge. C'était la première récolte. C'est ce que nous voyons à la fête des prémices. Juste après la Pâque, on donnait la première gerbe à l'Éternel. J'y reviendrai parce que c'est important, cette notion de première gerbe. Et donc, nous avons un décompte. Chaque soir, après le coucher du soleil, il y avait un décompte en jours et en semaines. Tous les soirs, il y avait une prière qui en hébreu dit ceci: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a commandé le comptage de l'homère. Et ensuite, nous disons, par exemple pour le 16e jour, aujourd'hui c'est le 16e jour, ce qui fait 2 semaines et 2 jours d'homère. Vous allez peut-être me demander, bon d'accord, c'est une tradition, en quoi cela nous concerne? Je pense que ça nous concerne parce que Dieu veut que nous nous réjouissons de le célébrer. Il désire que nous ayons une attente de ces moments où nous nous rassemblons pour le célébrer. Combien d'entre vous ont compté les jours jusqu'à un événement important? Un mariage, des vacances, Noël pour les enfants. Si nous attendons avec impatience ces événements, le Seigneur désire que nous attendions avec impatience, en comptant les jours où nous pourrons nous rassembler pour le célébrer. Dieu désire que nous anticipions la joie d'une célébration en sa présence. Le point suivant, je discutais l'autre jour avec Josué, j'ai présenté courtement aussi, lors d'un office messianique, une partie de ce message. Et lui me disait, écoute, cette partie-là en France, laisse tomber, ce n'est pas nécessaire. Mais nous ne sommes pas en France et je pense que nous sommes assez concernés. Je vous laisse imaginer le sous-entendu de mon directeur, qui accessoirement est américain. Donc, Pentecôte était un jour de repos. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous savez, Israël, c'était une société agricole. Tout le monde avait des champs et élevait du bétail. Et on était dans des périodes de récolte. Il aurait été assez facile de dire, « Ah, la récolte n'est pas terminée, je ne m'arrête pas, on va jusqu'au bout, puis après, on va se rassembler pour célébrer. » Mais ça ne se passait pas comme ça. Récolte finie ou pas, à Shavuot, tout le monde s'arrêtait et se réunissait. Dieu nous avait demandé de cesser notre travail. Et il était important, et il est important pour nous, de savoir nous arrêter pour nous concentrer sur l'Éternel. Vous savez, si notre travail où nos différentes activités deviennent tellement importantes que nous ne savons plus nous arrêter, nous allons manquer de donner à l'Éternel la place et l'honneur qui lui revient. Il est celui qui nous donne tout ce que nous avons, que ce soit l'argent que nous avons, que ce soit la famille que nous avons, que ce soit telle ou telle possession. Ce sont des choses que l'Éternel nous a données pour en faire la gestion. En réalité, comme Yeshua l'a dit, tout appartient à l'Éternel. Mais si nous ne nous arrêtons pas pour remercier celui qui nous a tout donné, est-ce que nous ne passons pas à côté de quelque chose de très important? Si nous ne savons plus nous arrêter, nous créons, nous faisons de ces choses des idoles. Quand on parle d'idoles, peut-être que plusieurs d'entre vous vont penser à des statues d'Asherah ou autres divinités que dans les temps anciens ils adoraient. Et vous allez vous dire, je ne suis pas concerné, moi je ne vais pas me prosterner devant une statue ou je vais pas, j'ai pas une petite idole dans mon arrière-cour. Mais nous sommes tous concernés, parce qu'une idole, c'est tout ce qui prend la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Ça peut être des choses qui sont bonnes. Le travail est une bonne chose en soi. Le travail est une bénédiction que Dieu nous permet d'avoir pour voir le fruit de nos mains. La famille est une chose magnifique. Dieu nous a dit, croissez et multipliez. Mais si ces choses, même bonnes, prennent la place de l'Éternel, elles deviennent des idoles. Sachons donc nous arrêter pour consacrer des temps à l'Éternel. Vous savez, si nous le faisons, ce sera au final pour notre propre bien. un autre point important, nous devions nous rassembler. Vous savez, en Israël, la célébration était communautaire. Ce n'était pas individuel. Ça impliquait la louange, la célébration, le sacrifice, ensemble, en commun. Dans la Bible, dans la Torah, c'est écrit, vous aurez une sainte convocation. Les gens devaient se réunir. D'ailleurs, Shavuot, la Pentecôte, était une des trois fêtes où tous les Israélites devaient venir à Jérusalem se rassembler devant l'Éternel. Et avant ça, dans la tente de la rencontre. Trois fois par année, il fallait se rassembler. Les deux autres, c'était Soukhot et Pessah. La Pâque et la fête des tabernacles à l'automne. Mais pourquoi est-ce que Dieu insiste pour que nous nous rassemblions? C'est vrai, Yeshua l'a dit, là où est l'Esprit, là où on adore. On adore en vérité ou en esprit. Un temps viendra où ce ne sera plus à Jérusalem, mais là où seront mes enfants. C'est vrai. Mais Dieu désire toujours que nous nous rassemblions. Notre société est devenue très individualiste. Je ne vais pas vous faire un cours de sociologie, mais parfois, effectivement, le monde a influencé l'Église, alors que je souhaiterais que ce soit l'inverse. Et c'est toujours valable que nous nous rassemblions, parce que nous formons un corps, une unité. Vous connaissez peut-être la plus grande prière récitée par le peuple juif, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » En hébreu, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Dieu est un, une unité multiple. On voit dans d'autres textes de la Bible, « Kol Israël Echad, tout le peuple d'Israël. » Jésus, Yeshua, a souhaité que nous soyons un avec lui. Vous serez un avec moi, comme je suis un avec mon Père. Mais si nous sommes unis, c'est aussi en nous rassemblant. Et quand nous offrons les prémices à l'Éternel, nous ne sommes pas appelés à le faire dans notre coin. Nous sommes appelés à le faire ensemble, à offrir le meilleur de ce que nous avons à l'Éternel, ensemble, rassemblés. Et j'aimerais vraiment vous encourager, dans la mesure du possible, à vous rassembler pour adorer l'Éternel. C'est important. Nous avons plein de moyens modernes, et c'est une bonne chose, s'il nous est impossible de nous déplacer. Mais ne laissons pas ces choses être des excuses pour ne pas rejoindre notre assemblée. Dieu désire que ses enfants soient rassemblés pour l'adorer. Et j'aimerais vous encourager à le faire. Ensemble, nous vivons la présence du Seigneur, nous vivons sa communion d'une manière que nous ne pouvons pas vivre quand nous sommes séparés les uns des autres. Et peut-être, et même probablement, que des temps viendront où ce ne sera plus possible. C'est déjà le cas dans de nombreuses parties du monde, où si on peut se rassembler, c'est uniquement en secret. C'est vrai. Et peut-être que ces temps viendront ici. Ils viendront certainement. Quand, je ne sais pas. Est-ce que ce sera de notre génération, dans les générations à venir? Mais je crois que tant que nous avons la possibilité de nous rassembler, faisons-le pour honorer notre Dieu, pour lui donner le meilleur. Parfois, le meilleur, c'est le meilleur de notre temps. Le temps est souvent, dans notre monde actuel, un des biens les plus précieux que nous pouvons lui offrir. L'Éternel demandait que nous venions avec un sacrifice. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées. L'Éternel voulait que nous venions, mais que nous ne venions pas les mains vides. Que nous soyons des images de sa générosité. Que ça montre, que sa bénédiction soit évidente. Alors, les prémices, ça peut être, comme je l'ai dit, notre temps. Ça peut être le salaire. Ça peut être des choses pratiques que nous pouvons offrir à l'Église. Des dons que Dieu nous a donnés pour aider de manière pratique. Mais venons à l'Éternel en lui offrant le meilleur, en ne venant pas les mains vides. Si nous ne pouvons pas, l'Éternel bien sûr le comprend. Il a dit, selon les bénédictions que l'Éternel vous aura accordées. Dieu ne demande pas, si je puis m'exprimer ainsi, que nous nous saignions pour lui offrir quelque chose, selon les bénédictions qu'il vous aura accordées. Vous savez, Pentecôte est connue aussi sous le nom de Hag Bikurim, ou fête des premiers fruits. La Bible nous enseigne que les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. On le voit dans l'Exode. De même que les premiers-nés appartiennent à l'Éternel, les prémices de la moisson, les prémices de ce que nous avons appartiennent à l'Éternel. Ce ne sont pas nos possessions, ce sont ce que Dieu nous a donné à gérer. Et Dieu ne veut pas le deuxième ou le troisième choix. Il veut le premier. Mais ce n'est pas un poids sur nos épaules. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et tu seras béni de l'Éternel. Non. Dieu est notre Père. Il nous connaît et il nous bénit. Il prend soin de nous. Ce n'est pas des fardeaux qu'il veut faire sur nous. Être disciple de Yeshua, ce n'est pas quelque chose de pesant. Il faut que je respecte ci, il faut que je respecte ça. Non. Être disciple de Jésus, c'est la plus belle des choses. C'est avoir un trésor où l'on veut par reconnaissance donner le meilleur à notre Père. Les pharisiens à l'époque faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Et notre Seigneur les a repris de manière assez sèche. Je parlais avec un contact l'autre jour qui me disait « Mais attends, je ne comprends pas. Jésus, il dit que tout le monde doit venir à lui, qu'il est amour, qu'il va pardonner. » Et elle continue, c'est une dame, une survivante de l'Holocauste, elle a plus de 85 ans. Puis après, ce Jésus qui est censé être quelqu'un plein d'amour, il parle à des gens et il leur dit « race de vipères ». Et elle ne comprenait pas. Il y a une chose qui mettait Jésus en colère, et c'est juste. C'était le légalisme ou faire peser des fardeaux sur les gens en refusant de les porter nous-mêmes. Et il n'a pas été tendre avec les religieux. Donnons le meilleur à notre Père, avec joie, de ce que nous avons. Parce qu'il ne demande pas plus, ni moins. Le dernier point que j'aimerais aborder sur un peu cette fête, c'était se rappeler de la libération de l'Égypte. Alors, vous allez peut-être me dire, bon, je ne suis pas juif, je ne vois pas en quoi la libération de l'Égypte nous concerne. Je vous rassure, beaucoup de juifs vous diront la même chose. Et pourtant, la tradition nous dit qu'à Pâques, nous lisons le récit de la libération en considérant que c'est chacun de nous qui avons été libérés de l'Égypte. Je pense que vos ancêtres, pour la plupart, n'ont pas été esclaves en Égypte, mais nous avons tous été esclaves. Et cette fête nous rappelle aussi quelque chose d'important. Nous avons été esclaves. Nous avons été esclaves du péché, de génération en génération. Et en accomplissant, comme à la sortie d'Égypte, en se sacrifiant, non pas un agneau pascal, mais l'agneau de Dieu, Yeshua nous a libérés. Et c'est une perspective dans l'avenir. Notre peuple, en Égypte, ne possédait rien. ni terre, ni moisson. Le Seigneur les a libérées. Elles ont reçu une terre, des moissons, en possession de génération en génération. Pentecôte nous rappelle le passé et nous montre l'avenir. Nous montre un Dieu qui est fidèle. Il a libéré son peuple lors de l'Exode. Et il nous a libérés, chacun de nous. Si vous l'avez mis au centre de votre vie, si vous avez pris la main qu'il vous tend, on marche avec lui, est fidèle à ses promesses. Il nous libère. Il a béni notre peuple lors de la première alliance. Et il a béni tous les peuples lors de la nouvelle alliance dont Paul Rage a parlé. Nous voulons nous rappeler d'où Dieu nous a sortis, de l'esclavage, du péché, de la mort, et surtout qu'il nous a donné une vie abondante en Jésus. Venons-en courtement à Acte 2. Il y a beaucoup de monde à Acte 2. On voit qu'à Jérusalem, c'est plein de monde. Et on le comprend pourquoi. C'était Shavuot, une des trois fêtes où tout le peuple devait se réunir à Jérusalem. Donc, Yeshua est ressuscité après la Pâque. Il passe 40 jours avec ses disciples à les enseigner. Puis il leur dit, attendez à Jérusalem l'accomplissement de la promesse. Cette promesse de Jésus était ancienne. Elle venait du prophète Joël. En Joël 2, 16, le prophète avait dit que « jeunes et vieux recevront l'Esprit de l'Éternel. Ils prophétiseront, ils annonceront la parole. L'Esprit répandu sur tous. » Il faut se souvenir, et nous le voyons à travers tout le Premier Testament, que seules certaines personnes recevaient l'Esprit. Il y avait des personnes qui étaient ointes, les rois, les prophètes, les grands prêtres. L'Esprit n'était pas sur tous. Quelques-uns avaient reçu l'Esprit du Seigneur, comme David. Et là, l'Éternel promettait sa parole, son Esprit, en tous. Comme Jérémie l'a dit, sa parole gravée dans nos cœurs. Une immense promesse que Jésus avait dit, c'est maintenant que ça s'accomplit. Ses disciples avaient cru, génial, c'est l'établissement du royaume. Jésus leur dit, non, ça c'est plus tard. Il donne le Saint-Esprit pour une raison bien précise. Nous équiper pour le témoignage. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis il retourne vers le Père, il est enlevé. Et vient la Pentecôte, vous connaissez le texte, ils sont rassemblés. Pas seulement les 12 ou les 11, mais aussi tous les premiers disciples, des hommes, des femmes, rassemblés dans une chambre haute, dans l'attente de la promesse de Jésus. Est le jour où nous célébrons le don de la Torah. La parole s'accomplit, vient se graver dans nos cœurs. Le Saint-Esprit descend sur chacun d'une manière visible. Et il commence à louer Dieu dans plein de langues. Et les gens se disent, il doit être ivre ou il y a un truc bizarre. Les gens se rassemblent, ils se disent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Pierre prend la parole. Il leur dit, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses que Dieu fait à travers sa parole se sont accomplies ou s'accompliront. Il n'y a pas une promesse que l'Éternel a faite qui ne s'accomplira pas. Vous pouvez en être certain. Si Dieu a mis une promesse dans votre vie qui n'est pas encore accomplie, patientez. elle le sera. Nous pouvons en être certains. Et ensuite, Pierre parle. Il cite David, il cite le psaume 16. « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le tombeau. » Et il continue. David ne parlait pas de lui. Le tombeau de David était toujours à Jérusalem. Et David était toujours dedans. Mais il parlait du descendant de David. Jésus le Messie, dans le tombeau, s'il est peut-être toujours à Jérusalem, ça reste à discuter où exactement, mais ce qu'on peut être certain, c'est que celui-là, il est vide. Il est ressuscité. Ce que les prophètes avaient annoncé, ce qu'Ésaïe avait annoncé, est arrivé. Et ensuite, il continue. Il parle du psaume 110, où David voit un de ses descendants et dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Jésus était un descendant de David, comme les prophéties l'avaient annoncé. Mais Jésus était bien plus que cela. Il était le Fils du Très-Haut, le Mashiach. Dieu fait homme. Cette promesse incroyable, qui d'ailleurs est une des choses les plus difficiles, que ce soit d'ailleurs pour les Juifs ou les musulmans à comprendre. Dieu qui se fait homme. Et pourtant, c'est exactement ce qu'est Yeshua, Jésus. C'était annoncé et c'est arrivé. Et il a été glorifié. Pierre parle. Il faut quand même se rappeler de qui était Pierre. Un pêcheur. Alors, pêcheur de poissons, hein. Quelqu'un sans éducation. La rhétorique, je ne pense pas que ce soit son domaine. Les grands discours, la connaissance de la Torah, il devait en avoir. Mais je ne pense pas que Pierre ait jamais pris la parole dans la synagogue avant sa rencontre avec Yeshua. Un homme du peuple, avec quelques défauts de caractère. Je lisais aussi avec un de mes contacts ce moment où Pierre reconnaît Jésus. Et Jésus lui dit « C'est mon Père qui te l'a révélé. » Et ensuite, il commence à parler de sa mort et de sa résurrection. Et Pierre, il réagit au quart de tour. « Ah non, ça, vraiment pas. Ça, c'est pas possible. » Il était un peu sanguin, Pierre. Et pourtant, Yeshua l'a utilisé puissamment. Et alors que Pierre avait dit « Jamais je ne t'abandonnerai, même si je dois mourir. » Vous savez ce qu'il a fait. Et pourtant, quelques jours plus tard, équipé du Saint-Esprit, comme chacun de nous est équipé, il a pris la parole devant une foule immense. Je pense que j'ai prêché une seule fois devant plusieurs centaines de personnes. Il y avait une grande réunion en Valais et j'ai pu présenter à l'époque Campus pour Christ. C'était déjà impressionnant. Devant une foule de probablement quelques dizaines de milliers de personnes, moi je n'ai jamais prêché. Et Pierre, avec toutes ses faiblesses, malgré le fait que quelques jours avant, il avait renié le Seigneur, équipé de l'Esprit, il s'est levé et a annoncé la bonne nouvelle. 3 000 personnes qui se tournent vers le Seigneur ce jour-là. 3 000 hommes, plus peut-être tous les autres. Vous vous rappelez aussi dans les pains et les poissons, on parle des hommes et il y a tous les autres. Vous savez, c'est durant cette célébration de la première cueillette, la cueillette de la première récolte, que Pierre parle. Et nous avons reçu le même équipement. Nous sommes probablement dans les temps des dernières récoltes. Mais vous avez tous reçu le même équipement que Pierre. Alors, est-ce que Dieu vous appelle à vous lever et à parler devant une grande foule. Peut-être, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Nous sommes appelés à parler autour de nous. Nous avons le même équipement que Pierre. Et il nous appelle à témoigner autour de nous, dans les gens qui nous connaissent, nos familles. Et je sais que ce n'est pas évident dans la famille, dans nos amis, à notre travail. Il nous appelle à être des témoins, avec sagesse. Aimons et parlons de manière équilibrée. Si nous ne faisons que parler et que nous n'agissons pas, Paul l'a dit, on est des cymbales qui résonnent. J'ai connu des gens qui avaient un grand zèle, mais qui parlaient. Toutes les trois minutes, ça parlait de Jésus. Au bout d'un moment, c'est assez fatigant. Et si je trouve que le zèle est admirable, il est mal placé. Mais il y a aussi des personnes qui aiment, qui prennent soin des autres, mais qui ne parlent pas, peut-être par crainte, peut-être par timidité. Mais dans le monde actuel, les gens ne feront pas le lien avec le fait que vous êtes des disciples de Jésus, des chrétiens. Si vous ne le mentionnez pas, les gens ne feront pas le lien. Parlons, trouvons l'équilibre. Nous avons reçu cette assurance de la vie éternelle. Nous avons le plus beau des trésors, une relation personnelle avec l'Éternel. Et il nous demande, et il nous propose d'être des sacrifices vivants, de tout donner pour lui. Le problème d'un sacrifice vivant, c'est qu'il a le choix de descendre de l'autel. C'est à nous de choisir. Est-ce que je vais l'écouter, faire ce qu'il me dit, même si ça me coûte du temps? Peut-être une certaine réputation, peut-être autre chose, peut-être effectivement des connaissances, des personnes qui vont me tourner le dos parce qu'ils ne peuvent pas accepter ce message. Peut-être, mais ce sera à nous de choisir. Vous savez, Pentecôte est toujours un défi pour nous aujourd'hui, le défi de consacrer ce que nous avons de meilleur à l'Éternel. Proverbe 9, 3, 9 et 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » C'est un défi. L'Éternel a tout fait pour nous. Yeshua a tout donné pour nous. Lui qui était pur, sans aucun péché, il a accepté de porter tout le péché du monde. Pour moi, le moment clé est ce moment dans le jardin des Oliviers où Jésus a peur. Il n'a pas peur de mourir, je ne crois pas. Il a peur d'être en contact avec le péché. Il ne l'a jamais connu. Le péché ne l'a jamais touché. Ne l'avait jamais touché. Il était l'Éternel. Dieu est sans tâche. Il allait être séparé de son Père. Qu'est-ce que ça signifiait? De toute l'éternité, ça n'était jamais arrivé. Et il a accepté ça. Pour nous. Par reconnaissance, donnons-lui. Si la première récolte est arrivée, notre travail n'est pas fini. Il reste à moissonner. Jésus nous a dit, il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Une grande foule va l'adorer. Et je souhaite, et c'est mon engagement, jour après jour, en France, ici, dans toute l'Europe francophone, être un témoin auprès de mon peuple pour que le plus grand nombre connaisse le Messie d'Israël et des nations. Et c'est la raison d'être de Juifs pour Jésus. Et vous pouvez nous accompagner. Je vais courtement juste passer un petit film sur ce que fait Juif pour Jésus et laisser juste quelques sujets de prière et les moyens de se tenir à nos côtés.